grand bien vous fasse, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 10h. Bonjour à tous, soyez les bienvenus en direct ou en podcast. Et si en matière éducative, on s'inspirait de l'avant-garde américaine? À l'image de leur pays, les écoles américaines restent un grand marché où l'on retrouve tout et son contraire, avec un fossé vertigineux, d'un côté des établissements privés aux frais de scolarité exorbitants, et puis des écoles publiques qui laissent peu de chances à leurs élèves de s'élever socialement. Mais l'une des chances justement du système éducatif américain, c'est qu'il est très décentralisé et très ouvert aux expérimentations. C'est une mine d'idées que nous aurions tort de rejeter. C'est ce que défendra notre invitée, la journaliste de l'AFP, Véronique Dupont, qui publie Super Kids. Avec nous également autour de la table, David Groison, rédacteur en chef du mensuel Phosphore, et le psychologue clinicien Didier Pleu. Toutes vos questions et réactions à notre conversation au 01 45 24 7000 sur l'appli France Inter et sur la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse. Bonjour Julien Bisson.
Bonjour Ali.
Avec une superbe marinière. Ce matin, rédacteur en chef de l'hebdomadaire Le 1, tous les mercredis, vous portez un regard singulier sur notre société. Au menu cette semaine,
On parlera du continent de la marinière, puisqu'on parlera de l'Europe.
À tout à l'heure, bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne, mode d'emploi.
France Inter. Grand Bien Vous Fasse. Ali Rebi.
Bienvenue à nos invités. Bonjour Véronique Dupont.
Bonjour.
Vous êtes journaliste à l'AFP et vous publiez Super Kids aux arènes. Vous avez enquêté sur l'avant-garde des bonnes idées éducatives venues des États-Unis. Bonjour David Groison.
Bonjour.
Vous êtes rédacteur en chef du mensuel Phosphore, le magazine destiné aux 14-18 ans. Et avec nous au téléphone, notre psychologue clinicien expert de l'émission Didier Pleu. Bonjour.
Bonjour.
Et vous êtes
Bonjour.
Le grand défenseur de la frustration dans le domaine éducatif. Véronique Dupont, pour beaucoup, le système éducatif américain ne fait pas forcément rêver, sauf bien sûr quand il s'agit des grandes universités, Harvard, Yale, Stanford, le MIT. C'est un système où coexistent des écoles privées aux frais de scolarité faramineux et puis des écoles publiques qui peinent à joindre les deux bouts.
C'est vrai, il y a beaucoup d'inégalités dans le système scolaire américain, mais en y vivant pendant 10 ans en tant que maman, avec mes deux filles, j'ai aussi découvert beaucoup de choses dont on parle peu ici. Notamment, des écoles qui expérimentent beaucoup, qui placent l'enfant au centre, qui s'attachent à ce qu'elle soit, ce que les enfants soient épanouis, avant de mettre l'accent sur l'apprentissage académique. Et aussi, c'est pas toujours aussi caricatural. Il y a aussi pas mal d'écoles gratuites qui font vraiment de belles choses et qui réunissent un peu le meilleur des deux mondes. Et j'ai eu envie d'en parler.
Et à l'image de leur pays, les écoles américaines sont un grand marché où on retrouve tout et son contraire avec une infinité de particularismes.
Oui, il n'y a pas de programme national, c'est chaque État et après même chaque district qui fait un peu sa sauce. Donc on a une diversité énorme et entre toutes ces différents statuts, entre les écoles privées qui font vraiment exactement ce qu'elles veulent, les écoles publiques où il y a aussi plein de choses, des gifted and talented.
Ça veut dire quoi?
pour les enfants talentueux, c'est un petit peu, les élèves qui sont considérés comme doués, qui vont faire passer des concours pour y rentrer. Il y a aussi les charter schools qui sont gratuites, financées par l'État, mais bénéficiant d'une autonomie de gestion. Donc, dans cet éventail, il y a vraiment de tout, il y a aussi des belles choses.
David Groison, vu de France, le système éducatif américain est souvent perçu de façon caricaturale?
Alors, ça dépend à quel niveau on se place, parce que c'est vrai que vous citiez au début les universités, elles font rêver et elles sont remplies de Français, en fait. Moi, j'ai eu la chance d'être en reportage à Berkeley, Stanford, l'automne dernier. J'ai jamais vu autant de Français et aussi peu d'Américains sur un campus, donc on sent qu'on a quand même une capacité à créer des élèves experts, des élèves pointus sur certains sujets, mais sans doute effectivement avec beaucoup moins de confiance en eux et moins à l'aise à l'oral.
Comment vous expliquez, Véronique Dupont, que beaucoup de parents plutôt fortunés envoient leur progéniture dans des écoles et lycées français aux États-Unis?
Parce que l'avantage du système français, par rapport justement à ce vaste éventail sans grande unité, c'est qu'on a un système unique, cohérent, on a une rigueur, une exigence. Ils aiment aussi l'accent du système français sur la culture générale, ça c'est sûr que c'est un fort chez nous. Donc voilà, ça c'est attractif. Et puis bon, c'est des écoles bilingues, et comme il y a eu beaucoup de littérature ces dernières années sur les bienfaits du bilinguisme pour le cerveau, donc il y a beaucoup de parents qui se sont engouffrés là-dessus et qui ont envoyé leurs enfants dans des écoles bilingues.
Alors le système éducatif américain est souvent perçu comme un système inégalitaire. Pourtant, vous citez dans votre livre un rapport PISA de l'OCDE de 2015 qui montre que les États-Unis ont amélioré l'équité dans leur enseignement. Le rapport PISA, c'est le programme international pour le suivi des acquis des élèves.
Oui, alors il y a, en fait, ils savent bien qu'il y a un problème de mobilité sociale, et ils ont fait beaucoup d'efforts, beaucoup de programmes pour aussi relever ce niveau-là, avec notamment, par exemple, des tuteurs, aussi pour les élèves immigrés, il y en a énormément dans le système public américain, parce que les élèves les plus favorisés vont souvent, parfois comme en France, vers le public, et du coup, le système public reste avec les derniers arrivés, les enfants les plus défavorisés. Il y en a beaucoup qui ne sont pas anglophones. Donc ils mettent par exemple en place des tuteurs qui vont les aider en classe à rattraper le niveau. Ça va prendre quelques années. Mais ça, c'est un des exemples. Ils ont beaucoup de systèmes d'efforts pour les élèves allophones. Mais également, il y a tout un système d'éducation pour apprendre la citoyenneté, apprendre la tolérance, beaucoup d'efforts qui sont mis pour voilà réduire les inégalités.
Alors longtemps, les États-Unis ne vous ont pas attiré, hein, jusqu'à ce que vous installiez pour votre travail, hein, vous êtes journaliste à l'agence France Presse, vous installez à New York en 2000, vous avez vécu une quinzaine d'années, c'est ça?
J'ai vécu en tout 15 années, en deux fois, avec un retour en France de quelques années, et puis un retour à New York avec des enfants. En fait.
Alors vous avez vécu à New York et à Los Angeles, vos filles Lila et Apolline ont été scolarisées là-bas. Qu'est-ce qui vous avait le plus frappé dans le domaine de la scolarité aux États-Unis quand vous avez donc scolarisé vos deux filles?
Bah, ce qui m'a frappé, c'est l'extrême bienveillance des enseignants. Là, je parlais par exemple de la maternelle. Quand elle... Alors, ça ne veut pas dire, c'est pas une critique pour les professeurs français du tout. C'était plutôt un climat général extrêmement doux, où je voyais les enseignantes ne jamais lever la voix, et pourtant c'était le calme, donc c'était assez frappant. Je me disais, mais comment est-ce qu'elles font? Et à côté de ça, dans toute la société, dans la cité, on voyait que les enfants étaient extrêmement bien accueillis, il y avait moins de pression comportementale sur eux, on leur demandait moins de se taire, moins de se tenir bien, on leur faisait la fête, et ça c'était assez frappant, parce qu'en France, quand on rentre en France après, on exige beaucoup plus des enfants, des jeunes enfants qui se comportent un peu comme des adultes.
On y reviendra tout à l'heure. L'un des maîtres mots hein, de ce que vous avez découvert aux États-Unis à l'école, c'est la confiance en soi. On y reviendra tout à l'heure, mais c'est quelque chose qui vous a frappé?
Oui, parce que en France, dans le système scolaire et aussi dans la parentalité un peu classique, même si les choses changent, on est beaucoup jugé, critiqué, on a des notes, on doit se conformer, bien se comporter tout le temps. Et là-bas, en fait, ce qui frappait, c'est qu'il y avait moins de jugement et beaucoup plus d'encouragement permanent. Alors souvent, c'est quelque chose dont on se moque un petit peu ici, les good jobs et tout. Mais là-bas, je les voyais vraiment en action. Et on voyait que ça marche. On voyait que les enfants très jeunes, ils étaient plus sûrs d'eux. On les encourage en permanence. On met plus l'accent sur le verre à moitié plein que sur le verre à moitié vide.
Et effectivement, les échecs sont valorisés.
Oui, il y a beaucoup plus le fait d'apprendre que se tromper, c'est pas grave. On va apprendre et on fera mieux la prochaine fois. Et c'est même, ça fait partie du processus d'apprentissage.
Alors votre livre, hein, c'est une enquête, hein, parce que vous avez rencontré des enseignants, des parents, des psychologues, des sociologues, des scientifiques.
Oui, donc je me suis rendue dans beaucoup d'écoles, j'ai interrogé beaucoup de parents, beaucoup de professeurs, des sociologues, oui, psychologues, et donc j'ai voulu un peu faire parler de mon expérience personnelle, mais aussi voilà enquêter sur le terrain.
Et l'idée de votre enquête, c'est de ne pas dénigrer les enfants, enfin les élèves, les enseignants, le système français?
Non, pas du tout, c'était surtout pas que ce soit un match un pays contre un autre. C'était plutôt parce que voilà, il y a des problèmes dans des deux côtés et les États-Unis ont leur part. On connaît la chose, c'était qu'on parlait souvent des problèmes des États-Unis, presque exclusivement des problèmes des États-Unis. Et moi, j'ai eu envie de parler de ce qui était bien. J'ai vu plein de choses qui m'ont inspirée en tant que mère et je me suis dit qu'ici, on pourrait en profiter.
David Groison.
Nous, on publie là dans Phosphore un sujet sur des jeunes qui s'adressent à eux-mêmes dans 10 ans. C'est des vidéos sur YouTube où ils se disent « cher futur moi ». Et en fait, cette question de la confiance en soi, quand on est adulte, ça saute aux yeux. C'est-à-dire, t'as Amina qui dit « tu vas le faire, tu vas y arriver, mais t'as juste à prendre confiance en toi ». T'as Mathéo qui dit qui veut faire du ciné, il dit « j'ai pas envie que tu finisses sous un pont, c'est l'expression de mon père, tu vas finir sous un pont », etc. Et on voit dans chaque témoignage à quel point ces jeunes de 16 à 20 ans français, eux, ils sont marqués par effectivement une peur de l'avenir et des manques de confiance en leur capacité. Alors que c'est lié sans doute à des faits culturels, à l'éducation, aux parents, à une ambiance qu'on a entre nous tous. Ouais.
Le regard de Julien Bisson de l'hebdomadaire Le 1.
Oui, moi, ce qui me frappe aussi, c'est cette idée d'autonomie qui en effet très présente dans le système éducatif américain, qui en effet a pas grand-chose à voir avec le système français, où souvent c'est une école pour tous. Aux États-Unis, il y a beaucoup d'écoles pour beaucoup de gens. Mais il faut revoir aussi que ça fait partie de l'histoire américaine de l'éducation, qui était marquée par la ségrégation pendant longtemps entre les écoles. Il y a une politique ensuite de déségrégation. On a essayé de mélanger les élèves, de mélanger ceux qui fréquentaient jusque-là des écoles différentes. Et aujourd'hui, l'autonomie des établissements est aussi un instrument pour reségréguer. Il faut bien quand même avoir cela en tête. C'est aussi un moyen, quand on dit à des établissements, mais oui, vous allez pouvoir avoir davantage de latitude dans le contenu éducatif, mais aussi dans le choix de vos élèves, c'est aussi un moyen de reségréguer ces établissements. Et on voit qu'il y a aujourd'hui, là où dans certains établissements par le passé, on pouvait avoir des étudiants blancs, des étudiants noirs, des étudiants latinos, et bien aujourd'hui, les écoliers sont beaucoup plus séparés qu'ils ne pouvaient l'être par le passé.
Vous l'avez constaté, Véronique Dupont.
Alors non, enfin je l'ai constaté, il y a une forme de ségrégation, c'est indéniable, notamment dans les écoles très chères privées, mais il y a beaucoup d'efforts qui sont faits pour déségréguer, si on peut dire ça, les écoles, notamment dans certaines écoles que je cite beaucoup parce qu'elles m'ont un peu épatée, les élèves sont choisis par loterie, justement pour éviter toute forme de vraie sélection. Les élèves envoient leur candidature et après il y a une loterie et il y a des quotas par code postal pour qu'il y ait leur chance que les enfants de tous les quartiers, même les plus défavorisés, aient leur chance. Et dans des villes comme New York, on parlait tout à l'heure des efforts pour l'égalité, il y a un programme qui est en place en ce moment donc à New York et dans des quartiers très favorisés pour justement mixer les parents, les habitants de ces quartiers plutôt riches, favorisés, ont demandé à ce qu'il y ait plus de mixité et à faire des espèces de transferts, échanges entre écoles pour que il y ait plus de mixité et de social dans les écoles.
Le regard de notre psychologue Didier Pleu au téléphone.
Eh bien, mon regard, moi je suis ravi de partager ce thème parce que après mon baccalauréat, j'ai passé un an dans une famille et j'ai aussi été pas mal séduit par l'éducation américaine. Donc vous voyez, quand vous dites que je suis le défenseur de la frustration, je peux aussi de très très bonnes choses. Aux États-Unis et en plus j'ai demandé à mes deux filles de faire exactement le même programme, de passer un an dans une famille américaine après leur baccalauréat. Et c'est vrai, ce que j'ai toujours adoré chez les Américains, même s'il faut mettre un bémol parce que chaque État est différent, c'est justement effectivement cette valorisation de l'enfant et cet extrême accompagnement pour la confiance en soi. C'est quand j'écris des petits programmes sur la concentration, c'est évident que je me suis beaucoup inspiré de... Oui, il faut pas confondre sa valeur avec son comportement, des choses comme ça, donner des outils de méthode, avoir confiance en l'avenir, c'est-à-dire avoir des projets extraordinaires, très grands, et si on n'a pas de grands projets et de grands rêves professionnels, on ne peut pas tellement s'accrocher à l'école. Donc tout ça, je l'ai pris dans cette culture américaine qui m'avait séduit, mais on en reparlera aussi. Quand il y a harmonie entre développement personnel, confiance en soi, estime de soi, et justement, mon dada, c'est-à-dire accepter les frustrations du quotidien, je trouve ça formidable. Et c'est vrai que quelquefois en Amérique, ils savent faire entre le développement de l'ego, l'épanouissement de l'estime de soi, mais aussi, et grâce au sport, c'est aussi l'apprentissage de l'empathie, de l'intelligence émotionnelle. c'est aussi une collaboration avec les parents, c'est aussi, par exemple, l'argent de poche se gagne. Moi, je me souviens que à la maison, dans ma famille américaine, très vite, on m'a demandé de laver mon linge. Je m'occupais d'une tâche à la maison, je faisais des choses pour les autres. Toute l'année, dans les clubs du lycée, on gagnait de l'argent pour pouvoir accueillir un nouvel étudiant qui serait comme moi dans une famille américaine. Donc, il n'y avait pas ce côté subventionné qu'ont nos enfants quand ils partent en vacances en fin de trimestre. Donc, vous voyez, ça, ce sont les bonnes choses. États-Unis, de lier le développement personnel, l'empathie et cette vie communautaire. Par contre, il y a des excès en ce moment, et on en reparlera, c'est bien sûr, non pas la valorisation, mais la survalorisation, la surprotection des enfants et la surconsommation, bien sûr, cette de plaisir immédiat dans lequel ils tombent de plus en plus.
On y reviendra tout à l'heure, Didier Pleu. Allez, n'hésitez pas à réagir à notre conversation au 01 45 24 7000 sur l'appli France Inter et sur la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse. Alexia Rivière et Alexia Lacour m'ont aidé à préparer cette émission avec Nicolas Beauve et c'est réalisé par David Leprince.
Tous les deux ont déjeuné sur l'herbe, et moi j'en avais fumé un peu. À travers mes paupières entrouvertes, l'air bleu, ton visage à l'envers sur ton buste, un baiser que tu me donnes à boire, à se croire dans un tableau d'Auguste Renoir. Un chardonneret qui sifflote dans l'eau, un bouchon qui flotte, ma plume qui pêche à la ligne, un verre, un signe. Tous les deux ont déjeuné sur l'herbe, et moi j'en avais fumé un peu. Tu me disais je t'aime, que ce verbe m'émeut. Donne-moi encore ta bouche qu'on déguste l'eau de vie de pomme, de prune, de poire, dans la toile étoilée de l'Auguste Renoir. Je gorge qui s'y flotte dans l'eau, un bouchon qui flotte, ma plume qui pêche à la ligne, une plume de cygne. Tous les deux ont déjeuné sur l'herbe, et moi j'en avais fumé un peu. Dans mes yeux, un triangle superbe, puis le soir obscurcit la pelouse. Pour l'oiseau, laissons les gâteaux secs. C'est parfait, on repart à Toulouse, Lautrec. Papaya de
bleu. Claude Nougaro interprétait l'une de ses plus belles chansons, Déjeuner sur l'herbe.
Bon alors maintenant vous vous taisez et vous sortez vos cahiers de géographie.
Grand bien vous fasse.
Le premier que j'attrape, en train de chuchoter, papoter, bavarder, je le fous à la porte avec un rapport.
Sur France Inter.
10h27, coup de projecteur sur quelques idées éducatives venues des États-Unis avec la journaliste Véronique Dupont qui publie Super Kids, l'avant-garde des bonnes idées éducatives venues des États-Unis, David Groison, un rédacteur en chef du mensuel Phosphore, hein, c'est destiné aux 14-18 ans, hein, c'est
ouais,
ça?
Oui, exactement.
Et avec le psychologue clinicien Didier Pleu, vous pouvez nous appeler hein, au 01 45 24 7000. Marie nous dit sur notre page Facebook que j'ai vécu 4 ans aux États-Unis et j'ai eu 2 enfants là-bas. Je suis d'accord avec certains aspects de ce que nous dit Véronique Dupont. En revanche, je ne suis pas d'accord avec beaucoup de choses. Le système américain est un système très inégalitaire. Soit les enfants vont dans des écoles privées très chères, soit ils vont dans une école publique de leur quartier. Et le prix de l'immobilier permet de trier la population de la carte scolaire. Véronique Dupont.
Bah, je suis d'accord sur le constat général qu'il y a beaucoup d'inégalités avec des écoles voilà, très chères, des écoles publiques beaucoup moins bien dotées. Mais qu'il y a entre les deux aussi beaucoup de choses qu'on ne connaît pas toujours. Par exemple, à New York, il y a des écoles gratuites, très, qu'on pourrait presque dire d'élite. Enfin, d'élite, c'est un mot un peu mal connoté, mais très performantes, où les enfants entrent par concours. Et c'est des écoles spécialisées ou voilà, gratuites. Il y a aussi des écoles charter qui sont gratuites avec beaucoup de...
Charter, ça veut dire quoi?
Charter, c'est un peu comme... c'est des écoles autonomes, mais à financement public, donc gratuites, qui présentent un programme, un projet pédagogique. Et il y en a beaucoup qui sont aussi également très performantes, font des belles choses, et notamment pour réduire les inégalités en demandant, exigeant, ça fait partie de leur postulat, une mixité sociale et même ethnique.
Julien Bisson, de l'hebdomadaire Le 1.
C'est pas le cas de tous les charter schools. Les écoles à chartes, c'est loin d'être le cas. C'est des écoles publiques, mais qui sont gérées par des opérateurs privés. Souvent d'ailleurs, je crois qu'il y a quasiment 15 à 20% des opérateurs privés qui cherchent le profit avec ces écoles. Et ce sont par ailleurs des écoles où le taux de graduation, le taux de diplôme est le plus bas du pays. Ce sont des écoles qui sont largement défendues par Betsy DeVos aujourd'hui, qui est la secrétaire à l'éducation de Donald Trump, et qui sont à mon avis quand même qui sont l'objet de beaucoup de critiques dans le pays.
C'est comme pour le reste des écoles américaines, il y a un peu à boire et à manger. Il y en a plein où j'aimerais pas mettre mes enfants du tout. Mmh. Par contre, j'ai vu des écoles là-bas qui me semblaient être un peu des écoles idéales, où on voyait exigence académique, bien-être des enfants, mixité sociale, et à mon avis, c'est un idéal dont on peut s'inspirer ici.
David Groison.
On s'en inspire d'ailleurs parce que rien que cette semaine, moi, il y a pour les lycéens, il y a 2 concours ce week-end, 2 finales de concours. Il y a un concours C'est génial, qui est un concours où les lycéens doivent faire des prototypes scientifiques, collégiens, lycéens. Il y a 8000 jeunes qui ont participé. Ils font des fours solaires, écologiques, un robot désherbant, etc. Et il y a une créativité, une envie de travailler ensemble et tout qui est super. Et puis le dimanche, on sera dans la finale de Startup Toi-même. C'est un concours pour les 13-17 ans où les jeunes doivent créer leur startup et on leur apprend après à imaginer un modèle d'affaires, pour qu'ils soient en capacité de lancer leur petite boîte s'ils ont envie.
Alors, l'un des piliers du système éducatif américain, Véronique Dupont, c'est la confiance en soi, on l'a un peu évoqué tout à l'heure. Qu'est-ce qui différencie fondamentalement la France et les États-Unis en l'espèce?
Beaucoup de choses. Il y a d'abord la parentalité. Donc, il y a aussi toute la société qui accueille l'enfant de manière plus bienveillante, avec plus de patience. On attend moins d'eux qu'ils se tiennent bien, qu'ils fassent pas de bruit. Donc, déjà, il y a un côté un peu plus détendu. On réprimande moins les enfants à la maison et dans la ville. Après, à l'école, on les encourage énormément. Il y a moins de notes, de notations numériques. Et de plus en plus, il y a un mouvement, y compris dans les écoles d'élite, à plus de notations du tout et à une évaluation purement qualitative. Ce qui fait que chaque enfant part de là où il est et on l'encourage à faire des progrès. On le félicite toujours sur ses points forts.
Comment expliquer cette attention portée à la confiance et à l'estime de soi?
Il y a un côté où tout ce qui est en train de monter chez nous sur les neurosciences, c'est comme s'ils étaient en avance là-bas et qu'ils l'avaient déjà largement intégré. Parce qu'ils partent du principe qu'un enfant qui est bien, qui a confiance, il va apprendre mieux que dans le stress. Notamment, un des épisodes qui m'a le plus marqué, c'est quand je suis allée à Brentwood, une école privée de Los Angeles, et j'ai assisté à un cours de compliments. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? On n'aurait jamais ça chez nous, on se dirait c'est gnangnan. Et j'ai demandé à la prof, mais enfin, pourquoi vous faites ça? C'est un peu bizarre. Et elle m'a dit, les enfants, ils n'ont pas toujours l'habitude qu'on leur fasse des compliments, et quand on leur renvoie une image positive d'eux, que ce soit pour leur performance, mais aussi sur leur comportement, ça dégage des hormones apaisantes de bien-être, et après ils sont dans une meilleure disposition pour apprendre.
Didier Pleu, qu'est-ce que vous en pensez de ces cours de compliments?
C'est sympathique tout ça, mais c'est vrai qu'il faut faire attention, parce que justement dans les points négatifs que je voyais très souvent au lycée américain et dans l'éducation américaine, c'était ce côté justement de rendre souvent trop digeste, difficile au niveau des apprentissages. C'est-à-dire, je me souviens, on faisait beaucoup de philo, on allait critiquer des grands philosophes comme Nietzsche, etc., dans mes cours de philo au lycée de Juneau, en Alaska, mais par contre, on ne lisait pas Nietzsche. Oui, c'est toujours dans le sens, il faut apprendre dans le plaisir, on est tous d'accord, et puisque les neurosciences le disent, ça doit être vrai, mais enfin, il faut faire attention avec les neurosciences qui deviennent le point Godwin de la psychologie. On fait dire aussi plein de choses aux neurosciences, mais c'est vrai que c'est souvent dans le difficile que l'apprenant a des difficultés. Et c'est là-dessus que je me bats constamment en disant, oui, on apprend mieux dans le plaisir, mais quand il y a du déplaisant, quand il y a du frustrant, est-ce que l'enfant n'est pas vulnérable? Et ce que j'ai vu aux États-Unis, c'est que très souvent, effectivement, ils deviennent très vulnérables dès qu'il y a une contrainte, dès qu'il y a une frustration. Ils sont survalorisés, mais de temps en temps, ils ne s'acceptent pas dans leurs défauts. Ils sont dans la surstimulation, mais de temps en temps, ils ne savent pas trop quel est le vrai talent qu'ils doivent développer. Ils sont bien sûr dans la surconsommation, et là je vois bien que mes collègues de New York à l'Institut Ellis, où il y a beaucoup d'ados qui tombent bien sûr dans la suralimentation, dans la dope, etc. Donc faut faire attention avec cette histoire de c'est dans le plaisir qu'on s'épanouit. Oui, on s'épanouit dans le plaisir, mais il faut aussi apprendre à nos enfants à s'épanouir dans le difficile. Et je crois que s'il y avait un bon lien entre l'éducation à l'américaine et l'éducation plus classique à la française, je crois que les deux ensemble, c'est une belle harmonie.
Mais tout de même, Didier Pleu, une solide estime de soi, c'est fondamental pour réussir dans la vie. Et plus on la cultive tôt, mieux c'est, non?
Non, mais tout à fait. Mais on peut très bien développer l'estime de soi, de croire dans les capacités de l'enfant, de tout faire pour qu'il soit confiant en lui. Mais on peut aussi lui dire, attention, il y a des petites choses qui sont à travailler, attention, il y a des choses qui sont différentes avec les autres, et tu pourrais peut-être quelquefois en souffrir. Je crois qu'on peut faire les deux. Oui, l'estime de soi est incontournable, mais s'il n'y a que de l'estime de soi, l'enfant peut développer une hypertrophie de l'ego. Regardez, j'étais navré hier quand j'écoutais les propos ou avant-hier de Kylian Mbappé. J'adore Kylian Mbappé parce que je me disais, voilà quelqu'un, un jeune qui a des valeurs, etc. Il était bien éduqué, j'ai écouté ce que disait son papa, mais là en ce moment il est en train de prendre le melon, comme on dit vulgairement. Il est dans l'hypertrophie de l'ego, c'est-à-dire à force d'estime de soi, de valorisation à tous les niveaux matériels et psychologiques, l'être humain est surdimensionné. C'est simplement ça que je n'arrête pas de dire. Oui, pour l'estime de soi, mais attention à la survalorisation de soi.
Et Véronique Dupont, pour vous, au contraire, la confiance en soi, l'estime de soi, ça construit un ego équilibré.
Oui, mais alors, je pense qu'en fait, on est d'accord, hein, parce que avoir une confiance en soi, une estime de soi solide, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de règles. Faut pas que ça tourne à l'arrogance, au surégo, non. Et les Américains, en fait, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que quand il faut poser des limites, ils les font en douceur, avec fermeté, mais en douceur, sans humiliation. Par exemple, une maman, une fois, son enfant s'était un peu vanté d'être le meilleur en espagnol de sa classe. Et moi, je me suis dit, oh là là, ça va les chevilles. Et elle, gentiment, elle lui a dit, mais ah oui, mais pourquoi? Et il a dit, oui, parce que c'est vrai que ma nounou était hispanophone. Et du coup, sa maman lui a montré gentiment, sans l'humilier, qu'en fait, s'il était si bon en espagnol, c'était grâce à elle.
Bienvenue Karen, bienvenue dans l'émission.
Bonjour.
Vous vous appelez Bonjour. De Tours.
Oui, j'appelle de Tours.
Alors, votre fils a fait sa quatrième dans le système nord-américain, mais à Montréal, au Québec.
Oui, Tout à fait. Il a fait une expérience de 6 mois, malheureusement pas une année scolaire entière, parce que son père a dû rentrer pour des raisons de visa. Donc ça, c'était la grande déception. Mais j'ai été frappée par l'épanouissement de mon fils en 6 mois à Montréal. C'est-à-dire que mon fils n'a jamais été adapté au système scolaire français. Moi-même, je suis franco-britannique, donc j'ai fait toute ma petite scolarité en Angleterre jusqu'à l'âge de 10 ans. Donc je me souviens du système anglo-saxon parce qu'il est très similaire. Et mon fils Alexandre a adoré l'école pendant quasiment une année.
Pourquoi ?
Quand il est rentré, j'ai dû le renvoyer à son collège en quatrième où il était précédemment. Et ça a été, comme je disais à votre collaboratrice, le début de la dégringolade jusqu'à ce qu'il arrête l'école en première.
Comment vous expliquez son épanouissement ?
Je crois que c'est passé essentiellement par la relation avec les professeurs. J'ai entendu plusieurs fois dire cela à l'antenne. Il y a une espèce de mise en valeur de l'enfant qui vient effectivement beaucoup des professeurs. Mais il y a aussi une responsabilisation des enfants. C'est-à-dire qu'on leur fait faire des choses dehors de la charité, par exemple. Il est allé donner, effectivement, servir des repas aux personnes âgées ou en difficulté pendant plusieurs mois. Il avait du sport tous les jours avec nous. C'est-à-dire qu'aussitôt qu'il est arrivé là-bas, il a fait partie du club de sport et tous les soirs, il y avait foot après. Voilà. Il s'est épanoui à l'école et il n'a jamais aimé l'école autrement que là-bas. Donc je me suis dit, ayant moi-même eu l'expérience de l'école anglo-saxonne, j'ai tout de suite fait le rapprochement. Et je disais à votre collaboratrice en riant qu'un jour il avait un petit cœur de l'enseignant sur son carnet.
Tiens, je vous propose, Karen, pour aller dans votre sens, je vous propose d'écouter le neurologue et éthologue Boris Cyrulnik.
On a découvert que l'affectivité joue un rôle majeur même dans les performances d'intelligence abstraite. C'est-à-dire que quand un enfant se développe dans un milieu en difficulté affective, c'est pas lui, c'est le milieu qui est en difficulté affective, la première performance abstraite qui chute, c'est les mathématiques. Parce que les maths sont une performance d'intelligence absolument étonnante. Les matheux sont des martiens, c'est des gens étranges. Et seulement si on veut qu'un enfant éprouve le plaisir de faire marcher son intelligence, ça ne peut être que pour quelqu'un, pour que ça ait un sens.
Boris Cyrulnik en 2003 sur France Inter, Boris Cyrulnik qui nous dit que l'enfant a du mal à apprendre auprès de quelqu'un avec qui il n'est pas attaché, Véronique Dupont, et ça vous l'avez constaté aux États-Unis, c'est une idée très répandue dans la communauté éducative, et c'est ce que nous disait Karen.
Exactement. Les professeurs ont des espèces de mantras là-bas, si tu veux que ton élève s'intéresse à ce que tu lui apprends, tu dois d'abord t'intéresser à lui. Ou il faut que tu aimes d'abord ton élève. Donc il y a quelque chose de très affectif. Ils ont aussi intégré ça et la relation professeur-élève est vraiment au centre de l'apprentissage.
David Groison.
Ouais, c'est dommage pour Karen, parce que nous à Tours, on a vu un lycée Notre-Dame de la Riche où il y a cette idée de collaboration, de relation avec l'enseignant, où d'un coup les élèves de seconde choisissent le projet sur lequel ils veulent s'investir, qu'ils inventent eux-mêmes, et là en première ils le mènent et on y était. Ils font un atelier de réparation de vélos avec des jeunes réfugiés pour leur donner ensuite les vélos. Donc ils font de la mécanique, mais aussi ils apprennent à incarner des situation géopolitique, à les rencontrer, et c'est évidemment une expérience humaine extrêmement forte qui les motive pour leurs années lycée.
Rappelez le nom de cet établissement.
Notre-Dame de la Riche, et l'enseignant c'est Robin Durieux.
Vous le connaissiez cet établissement, Karen ?
Non seulement je le connais, mais mon fils y est allé une année.
D'accord. Bon.
Mais malheureusement, il avait été réorienté en professionnel puisqu'il n'avait pas les niveaux pour entrer en seconde générale.
Ouais.
Et du coup, je crois qu'il s'est retrouvé dans un bac pro commerce qui ne lui convenait pas du tout. Donc il avait déjà raté le coach, je crois. C'était très dommage parce qu'il avait nettement le niveau de faire un baccalauréat. Donc j'ai vraiment été très déçue. Mais c'est surtout cette expérience au Canada qui m'a tellement frappée. D'autant plus que, comme je vous dis, j'ai des origines franco-britanniques, donc ça britannique. Et j'ai fait le rapprochement immédiatement. J'ai tout de suite compris que c'était sa mise en valeur, la mise. Et c'est drôle ce que disait Boris Cyrulnik, parce que mon fils et moi, on est archi nuls en maths. Et voilà, c'est certainement lié à un problème de confiance en soi.
Je vais faire partie de votre club, Karen, avec votre fils pour les nuls en maths. Merci beaucoup d'avoir témoigné ce matin. Allez, il est temps de retrouver Julien Bisson de l'hebdomadaire Le 1. Alors cette semaine, il est question, comme par hasard, d'Europe.
Oui, mon cher Ali, car vous me connaissez, si je ne suis pas le dernier à aller jeter un œil, et parfois plus qu'un œil, de l'autre côté de l'Atlantique.
Oui, parce que vous êtes rédacteur en chef d'América.
J'ai aujourd'hui, comme beaucoup de nos auditeurs, le regard rivé sur l'Europe, notre Europe, qui va voter toute cette semaine sur son avenir. Peut-être parce qu'en matière d'éducation européenne, comme aurait dit Gary, j'ai eu mon compte, j'ai donné dans le correspondant allemand au collège avec le traditionnel voyage de classe, j'ai connu le programme Erasmus en Italie, j'ai refait le monde avec des amis espagnols, danois, anglais, belges, polonais, qui ont défilé dans notre grande colocation aux airs de films de Clapiche. Bref, comme beaucoup de nos auditeurs, je suis un enfant de cette Europe qui sait bien qu'il a beaucoup plus de points communs avec un Italien ou un Hollandais qu'avec un Américain ou un Chinois. Alors aujourd'hui, à la veille d'un scrutin qui ne mobilise guère l'opinion, nous avons voulu comprendre ce qui n'allait pas entre l'Europe et nous, entre ce machin bruxellois et les Européens que nous sommes. Quel danger y aurait-il à laisser se démanteler cette construction de plus d'un demi-siècle dont les élargissements successifs ont fini par émousser les bases et les valeurs, jusqu'à semer le doute sur la nécessité de construire un avenir commun ? Comme souvent, c'est la désignation d'un ennemi extérieur, disons d'adversaire, on n'est pas en guerre, qui pourrait inciter à la cohésion. Avec Donald Trump, l'Amérique que nous avons évoquée dans cette émission n'est plus vraiment l'allié historique d'hier. Si on ajoute le revanchisme de Poutine, les tensions de l'autre côté de la Méditerranée ou l'appétit chinois, cette nouvelle configuration géopolitique devrait elle seule faire réfléchir aux conséquences d'un éclatement de cette sans doute mal nommée Union européenne.
Alors Julien Bisson, comment donner envie à nouveau de croire au projet européen ?
Mais c'est peut-être la question fondamentale qu'il faut se poser cette semaine. Et cette question, nous l'avons posée dans ce numéro à de nombreux intellectuels, sociologues, philosophes, écrivains venus des quatre coins du continent. Et chacun y répond avec sa singularité, souvent pour déplorer l'état de l'Europe actuelle, l'éloignement de Bruxelles, la promotion d'un libéralisme à tout craint qui affaiblit les vieilles structures, le creusement des inégalités, la crise migratoire si mal gérée. Mais en creux, ils s'entendent tous aussi sur un besoin d'Europe. Car ils savent que les dirigeants nationaux aiment rejeter sur l'Union européenne les problèmes qu'ils n'arrivent plus à régler chez eux. Or, face à la mondialisation, nous n'avons plus guère le choix. Comme le dit Enrico Letta, l'ancien président du Conseil italien, dans l'entretien qu'il nous a donné, ou bien on est ensemble, ou chacun de nos pays fait le choix de devenir une colonie américaine ou une colonie chinoise. Au moment même où le besoin en devient criant, les Européens n'ont pas de politique sociale et économique commune, pas de budget, pas non plus de politique étrangère, sans parler d'avoir une armée. Bref, les Européens ne disposent pas d'un État qui pourrait les protéger et servir un idéal commun, le genre d'idéal dont il serait bon qu'on parle un peu d'ici dimanche prochain.
Parlez-vous Europe, c'est le thème du numéro de cette semaine, de l'hebdomadaire Le 1, disponible en kiosque et en librairie. Et pour son cinquième anniversaire déjà, vous republiez le tout premier numéro « La France fait-elle encore rêver ?». Allez, dans quelques instants, on continue à explorer les bonnes idées éducatives venues des États-Unis. N'hésitez pas à réagir au 01 45 24 7000 et sur la page Facebook de « Dans la vous fasse ». Hubert Lenoir interprété Fille de personne.
Bonjour les adolescents, je suis votre nouveau professeur d'histoire car j'ai réussi mon CAPES.
Grand bien vous fasse.
Ok, comme je vous disais, je suis Eric, prof de sport, alors j'espère que vous aimez sporter. Parce que, hé, qui se porte bien le jour, se porte bien la nuit.
Alire Rébéi.
Morning.
Morning.
I hope so, but don't foot you to my girl.
Sur France Inter.
10h47 et on s'intéresse ce matin à quelques bonnes idées éducatives venues des États-Unis. Standard ouvert au 01 45 24 7000.
Ici, pas de maîtresse ni de table bien alignée. Les enfants apprennent avec la méthode Montessori, une pédagogie qui repose sur l'éducation sensorielle. Un mot d'ordre, la liberté. Les enfants choisissent eux-mêmes ce qu'ils veulent faire.
Notre point de départ est l'enfant. Donc on observe l'enfant de 3 ans, on observe ce qu'il aime faire, ce qu'il n'aime pas faire, comparé à l'éducation nationale, un petit peu renversé. C'est nous qui apprenons de l'enfant.
Ça tient en compte l'individualité de chaque enfant, les rythmes d'apprendre, les respects. Il y a des valeurs qui sont vraiment très défendues dans cette sorte de méthode.
Ça leur permet d'être très pragmatique et de s'adapter aux besoins réels des enfants tels qu'ils les voient sur le terrain et non pas de suivre un programme théorique qui s'impose à tous au-delà des talents, des difficultés des uns et des autres.
Extrait d'un reportage sur BFM TV en 2016. Véronique Dupont, vous publiez donc Super Kids, consacré à l'avant-garde des bonnes idées éducatives venues des États-Unis. Quelle est la place des pédagogies nouvelles dans le système éducatif américain? Les pédagogies nouvelles inspirées de Maria Montessori, de Freinet ou encore de John Dewey, qui est l'un des précurseurs de l'apprentissage par l'expérience. Quelle est la place de toutes ces pédagogies?
Elle est très répandue et c'est ça qui est frappant là-bas, c'est que les pédagogies sont très ludiques, ils partent d'un principe constructiviste, c'est-à-dire que on doit construire ce qu'on va étudier en prenant en compte l'intérêt de l'enfant pour que, évidemment, s'il est intéressé, il va réagir mieux. Donc il y a un programme, mais après, pour l'application exacte, on va demander aux enfants. Par exemple, si on doit étudier les écosystèmes, on va leur demander à quoi ils s'intéressent. Est-ce que ça va être au papillon monarque ou à l'Amazonie, des choses comme ça. C'est aussi beaucoup de pédagogie de projet. Des choses qu'on voit déjà aussi en France se répandre de plus en plus, mais qui sont là-bas aussi beaucoup plus vastes, répandues. Il y a aussi l'interdisciplinarité qui est très importante, où les équipes pédagogiques peuvent vraiment travailler ensemble au niveau de toute une classe, d'une promotion, parfois même de toute une école, pour avoir un thème. Par exemple, qu'est-ce qu'être américain? Et ça va être décliné dans toutes les classes. Ou alors le pain, des choses comme ça qu'on va retrouver en histoire, en mathématiques ou même en littérature.
Bonjour Christine, bienvenue.
Bonjour.
Bonjour.
Ça me fait plaisir d'intervenir et puis ça me rappelle des bons souvenirs. Voilà, j'ai enseigné dans les années 90 à Houston, au Texas.
En tout cas, ça me fait plaisir de vous...
J'étais jeune à l'époque et puis je crois que ça a marqué le reste de ma carrière.
Ça nous fait plaisir de vous avoir, Christine. Vous avez la pêche. Alors, racontez-nous un peu votre expérience à Houston, au Texas.
Voilà, ben on est arrivé 6 couples d'enseignants dans une école américaine gérée par une équipe donc du Texas, et il y avait une section française à l'intérieur donc qui suivait les cours de la pédagogie française. Et mais comme on était bien mélangés et que ça faisait qu'une seule école, on participait à toutes les activités, que ce soit les activités sportives ou culturelles. Et je me souviens d'une prof extraordinaire de musique qui faisait un spectacle par an et qui prenait une classe par niveau, une autre qui s'occupait du théâtre. Et donc on avait la chance de pouvoir participer à une pièce de théâtre pour les enfants volontaires. C'était une ambiance absolument extraordinaire pour les enfants et je suis 100% d'accord avec votre intervenante aujourd'hui qui est capable de mettre en valeur cette pédagogie alors qu'elle est tellement décriée en France. Voilà.
Véronique Dupont.
Bah oui, je suis d'accord. Notamment, vous parlez des arts, en fait, la musique en particulier, ou par exemple le sport, la natation. Moi, j'ai aussi été frappée par les cours de natation où le prof est dans l'eau avec les enfants et pas sur le côté en comptant les longueurs, où ils font des jeux, ils les encouragent, ils les mettent en confiance, une fois encore. Et en musique, alors là, c'était complètement épatant. Ici, parfois, on nous parle de période probatoire où il faut répéter la même note jusqu'à la perfection et les enfants s'ennuient un petit peu. Là-bas, c'était tellement ludique, on leur faisait faire des spectacles, on attendait moins la perfection, mais vraiment qu'ils prennent plaisir.
Julien Bisson, Duhan.
Oui, et puis il y a aussi cet autre aspect qui est la prise de parole en public. Oui. Il y a cet exercice assez rituel, vous savez, du show and tell, montrer et raconter, c'est-à-dire une prise de parole publique devant la classe, déjà très jeune, qui peut permettre justement de donner confiance, de prendre confiance dans ses capacités oratoires.
Ça consiste en quoi concrètement ?
Ça consiste simplement en apportant régulièrement quelque chose, un objet de chez soi. Alors ça peut être son doudou, ça peut être le dernier livre qu'on a lu, ça peut être un souvenir de voyage, et puis simplement de parler, de raconter son lien à cet objet.
Oui, oui, donc ça, ça fait partie de la vie de la classe très tôt. Les profs ont énormément participé aussi. Ils disent pas juste qui a quelque chose à dire, mais alors, pont, alors, ceux qui trouvent que ce triangle est équilatéral, levez la main. Ceux qui pensent qu'il ne l'est pas, levez la main. Bon, alors, on n'est pas d'accord. Maintenant, on discute. Donc, les enfants se mettent naturellement à devenir de bons orateurs.
Merci beaucoup, Christine, d'être intervenue ce matin. Didier Pleu, notre psychologue clinicien au téléphone.
Oui, oui, je voulais attirer l'attention sur quand on dit que aux États-Unis c'est souvent dans un contexte ludique et un peu de plaisir. Ce n'est pas que ça. Moi, je me souviens très bien que ma fille qui était dans une école d'art publique à Cincinnati, elle en a pas mal bavé aussi, parce que c'est comme en sport. Hein. On oublie toujours de dire qu'il n'y a pas que le développement de l'estime de soi, il y a aussi toujours cette espèce de travail constant pour augmenter aussi parfois la tolérance aux frustrations. C'est-à-dire en sport, c'est on s'exerce. En art, on répète. Donc ils savent harmoniser ce côté, une sorte d'horizontalité avec les enfants, mais aussi à un moment donné, ils redeviennent à la verticale pour exiger de l'enfant et le contraindre. Et c'est ça que j'ai beaucoup apprécié parfois aux États-Unis, c'est ce mélange entre eux. Oui, on fait attention à l'enfant, on le respecte, mais aussi à un moment donné, on reprend le leadership en tant qu'adulte pour exiger et lui donner le goût de l'effort.
David Groison, de Phosphore.
Ouais, je veux pas faire le chauvin de service,
mais ce que dit Julien,
moi, mon fils, à la maternelle, il y avait un totem avec l'ours qu'on faisait voyager le week-end. Il allait en parler devant la classe. Il avait 3 ans et il apprenait à faire de l'oral. La semaine dernière, on a assisté à un truc génial, un débat entre un lycée de Gennevilliers et un lycée de Neuilly sur la question de l'Europe. Ils avaient dû travailler leurs arguments, ils ont débattu ensemble. Donc il y a plein d'initiatives d'apprentissage coopératif, de prise de l'oral.
Bien sûr, David Groison, mais il ne faut pas oublier que dans beaucoup de maternelles publiques, eh bien, il y a une inspiration des pédagogies nouvelles, type Freinet, Montessori, etc.
Oui, oui. Maria Montessori qui est née en Italie, Freinet qui est née en France. Oui, oui.
Alors, on a beaucoup de questions, Véronique Dupont, sur la discipline à l'école ou la discipline éducative en famille. Ce qui vous a frappé aux États-Unis, c'est que les crises de larmes, les colères, tout refus obstiné de dire bonjour, c'était pas forcément catalogué comme des caprices.
Non,
avec l'idée peut-être que leur cerveau, de ces bons petits diables, est immature et qu'il faut donc faire preuve de tolérance avec ses comportements. Je suis pas sûr que ça plaise à Didier Pleu, ça, mais...
Oui, il y a beaucoup moins d'exigences. Ce que nous, on qualifie de caprice, eux, ils considèrent que c'est une immaturité de l'enfant. Donc, si l'enfant de 3 ans se roule par terre, on va pas forcément le punir ou le disputer. On va essayer de le calmer. Bon, on va quand même poser des choses. Après, on va attendre qu'il soit calmé et parler avec lui. Tolérance, ou plus grande tolérance au comportement un peu débordant des enfants, ça ne veut pas dire absence de limites et absence d'éducation en soi.
Didier Pleu.
Bah oui, vous savez bien ce que je pense au niveau des colères caprices. C'est évident qu'il y a des colères chez l'enfant qui exprime, mais là je suis d'accord, qu'est-ce qu'il ressent, qu'est-ce qu'il veut, c'est sa seule façon de parler. Mais aussi toutes ces petites colères, c'est parce que j'ai envie de faire ça et ça ne marche pas comme je veux. Donc faut faire attention à bien dissocier les deux.
Et une très bonne question de Caco sur notre page Facebook. Ça sera intéressant de mettre en perspective les moyens mis en œuvre dans le système éducatif français et ceux mis en œuvre aux États-Unis ou au Canada. Combien d'enfants par classe? Avec quels moyens, etc., etc. Véronique Dupont.
Oui, il y a des statistiques qui existent de part et d'autre, mais elles sont pas forcément comparables. Ce qui est sûr, c'est que on voit qu'en France les choses bougent et qu'il y a beaucoup de ces principes d'éducation nouvelle et des neurosciences qui sont en train d'être aussi mis en place en France. Et ça, c'est très positif et c'est très encourageant.
David Groison.
Oui, il y a un truc qui est super dans votre livre, là, c'est quand vous parlez des punitions en France. Et aux États-Unis, on dit au Québec aussi, on dit ça, on dit on va te mettre en conséquence. Et de dire, voilà, que là, je pense qu'il y a.
Ça veut dire quoi?
et ben que d'un coup on te dit on va réfléchir ensemble aux conséquences de ton acte et on va donner au fond une continuum à cette faute ou à cet écart de comportement, etc., d'essayer de réfléchir comment on peut changer, comment on peut évoluer. Et ça, je trouve ça intéressant pour les enseignants, mais c'est intéressant aussi pour les parents.
Véronique Dubon, en quelques secondes, qu'est-ce que vous auriez envie de dire au ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer ?
Alors, d'abord que tout l'accent sur les neurosciences, évidemment, moi je suis pour, je trouve ça super. J'aimerais beaucoup qu'il continue à développer les projets de classe bilingue, parce que en tant que mère d'enfants bilingues, je vois qu'il y a vraiment un manque, que les parents se battent pour les quelques places qui restent, et ça, ce serait vraiment extrêmement bénéfique.
Et on sait aujourd'hui les bienfaits du bilinguisme sur le cerveau des enfants. Merci beaucoup Véronique Dupont. Je recommande Super Kids, c'est publié au Arènes. Merci d'être venu. Merci David Groison. La une du dernier Phosphore en kiosque, c'est Cher Futur Moi. Ils se sont donné rendez-vous dans 10 ans, hein, les élèves et les jeunes que vous avez rencontrés.
Ouais, et c'est un projet aussi sur YouTube.
Merci Didier Pleu. De l'enfant roi à l'enfant tyran, et ben c'est disponible en poche chez Odile Jacob. Demain, on s'intéresse à la pollution atmosphérique qui nous empoisonne à petit feu. Quelles sont les conséquences sur notre santé? Comment lutter contre les particules fines qui nous rendent malades? Toutes vos questions au 01 45 5 24 7000.